Histoire d'en savoir plus sur Radio Grand Ciel, une émission présentée par Elisabeth Couget. Bonjour à tous. Vous connaissez très certainement mon acolyte Bernadette Loison, ou au moins sa voix, puisqu'elle présente de nombreuses émissions sur notre antenne. Mais vous êtes certainement peu nombreux à savoir qu'elle possède une collection extraordinaire de théières de toutes sortes. On ne pourrait à la radio que vous les décrire. Et qui pourrait nous en parler mieux que Bernadette elle-même ? Bonjour Bernadette.
Bonjour Elisabeth, bonjour tout le monde.
Et merci d'avoir bien voulu t'asseoir à l'autre côté du micro.
C'est un plaisir aussi.
C'est notre, l'autre côté du décor, n'est-ce pas ? Alors, des théières, on va en parler, bien entendu, puisque c'est le sujet, enfin, c'est ce que j'ai choisi comme sujet. Mais pour parler de théières, il faut bien parler du thé.
Oui.
Donc, je crois que commençons par le thé. D'où vient le thé ? Qu'est-ce que le thé ?
Alors, le thé, c'est un camélia, en fait. C'est le camélia simensis. C'est une plante avec ses fleurs blanches qui pousse spontanément en Chine depuis plus de 2000 ans, peut-être un peu ailleurs, mais c'est surtout en Chine où ça s'est développé. Et après, ces feuilles que l'on cueille à certaines périodes de l'année, on peut les transformer plus ou moins en thé jusqu'à la fleur de thé.
Ah, d'accord. Voilà, fleur de thé, c'est très joli, ça. Je crois que c'est quelque chose de très rare, en fait, très fin quand on les cueille.
Oui, et c'est ce qui mérite aussi une théière complètement transparente. Parce que si on veut profiter de la façon dont la feuille de thé s'ouvre de plus en plus dans le fond de la théière, c'est mieux d'avoir une théière transparente.
Oui, c'est super ça. Hein. Alors, j'ai lu quelque part dans le dictionnaire que le mot thé vient d'un mot malais ou chinois, on ne sait pas.
Peut-être plutôt chinois, je dirais.
Chinois, oui, on verra bien. J'ai vaguement entendu parler aussi d'une légende qui raconte comment on a découvert le thé. Tu en as entendu parler, tu
sais ? Oui, alors il y a deux légendes. En fait, il y a celle de l'empereur qui se promenait dans la campagne, chez lui, et qui avait un bol d'eau chaude qui avait bouilli à la main, parce que pour des raisons d'hygiène, déjà à cette époque-là, il demandait aux populations de faire bouillir leur eau. Il est passé sous un arbre, deux ou trois feuilles sont tombées dans son bol. Je trouvais que c'était joli comme couleur. Il a goûté et c'est comme ça qu'on a découvert le thé. Il y a quelque chose
qui... c'est la légende numéro 1, alors.
C'est la légende numéro 1. C'est aussi la plus réaliste parce que l'autre est un petit peu plus féerique. C'était un moine bouddhiste qui avait fait vœu de ne pas s'endormir. Et donc, il priait, mais au bout d'un certain temps, il s'est endormi. Alors, pour se punir, il a coupé ses deux paupières et il les a jetées sur le sol. Et c'est de là qu'on sortit le théier qui permet de rester éveillé.
Ah, effectivement. Bah oui, parce qu'il faut le savoir que le thé contient pratiquement autant, sinon plus de théine.
En tout cas, ça
stimule. On dit la théine, c'est ça ?
La théine, oui.
Mais qui est très fort, hein, stimulant.
C'est stimulant, ça permet d'être gai, enjoué, dynamique.
C'est bien, ou bien ne pas pouvoir dormir, ça dépend des personnes.
Non, mais on fait maintenant de très bons thés qui s'appellent les thés d'après-midi. Et donc, on peut délicatement prendre ces feuilles de thé, les mettre dans sa théière et tout va bien après le soir.
Alors, l'arbre sur lequel, ou le buisson sur lequel pousse le thé, ça s'appelle un théier.
C'est un théier.
Un théier, voilà, c'est ça.
Et là, ce sont toujours ces camélias blancs dont je parlais tout à l'heure, qu'on ne laisse plus pousser maintenant qu'à 1,50 m.
Oui.
Parce que le théier, naturellement, va pousser bien jusqu'à 10 mètres.
Oui, ça deviendra
comme
un arbre.
Comme il est cueilli très régulièrement, on le fait vraiment pousser à hauteur d'homme avant de faire les récoltes.
Alors, j'ai vu qu'en Inde, c'est peut-être en Inde qu'on fait pousser le plus de thé.
Maintenant, oui. Certainement, mais ce qui respecte aussi...
C'était pas leur culture d'origine, je crois.
Pas du tout, puisque c'est un Anglais qui avait été en Chine à une époque où c'était tout à fait interdit, où le thé comme la porcelaine étaient des choses qui devaient rester particulièrement secrètes. Et lui, il s'est habillé en chinois, et ça a marché. Et au fil du temps...
Il a volé du thé.
C'était vraiment l'espionnage industriel avant l'heure. Et quand il a été prêt, il est parti en Inde parce qu'il pensait que ça pousserait bien là-bas, avec non seulement ses plants de thé qu'il avait dérobés, mais aussi des Chinois qu'il a convaincus de le suivre, qui savaient faire le travail. Et même, c'est amusant, il a emmené des ferblantiers avec lui, c'est-à-dire des Chinois qui savaient faire les boîtes en fer
dans lesquelles on met le thé.
Et maintenant encore, de nos jours encore, on fait des boîtes en fer.
Alors, j'ai eu la chance d'aller en Inde Et j'ai vu effectivement des plantations de thé, c'est tout à fait féerique, c'est magnifique. Hein.
Oui, surtout si les cueilleuses ont des saris magnifiques et colorés.
Exactement, très colorés, voilà, oui. En train de ramasser le thé. C'est très joli. Alors, tu disais tout à l'heure fleur de thé. Donc, apparemment, c'est lorsque le camélia, comme tu dis, est encore seulement
juste en bouton. Juste qu'il est bien sec.
Et voilà, et c'est comme ça que dans l'eau chaude, ça va s'ouvrir.
Voilà. Et c'est assez magique.
Peut être très, très joli à voir. J'ai vu qu'il y avait toutes sortes de thé. Je sais qu'en Amérique du Sud, par exemple, il y a le thé qu'on appelle le thé des jésuites et qui s'appelle le maté. Donc, c'est une plante qui pousse, qui n'a rien à voir avec le thé dont nous parlons aujourd'hui.
C'est ça, c'est comme le rooibos, qui n'est pas un thé rouge,
puisque
ce n'est pas un camélia, et donc ce n'est pas du thé.
Exactement.
Enfin, pour moi.
Et qu'est-ce que c'est que ce qu'on appelle le thé noir?
Alors, c'est un thé qui est fumé.
Oui.
Dont les feuilles ont été brassées, séchées, fumées.
Ah oui,
mais de plus en plus, maintenant, on se retourne vers le thé vert en trouvant que c'est meilleur pour la santé. Enfin, on le dit.
Et oui, je crois qu'il n'est pas fermenté du tout.
Alors que le thé peut être plus ou moins fermenté. Voilà.
Le thé, alors je connais aussi, j'adore moi le l'absinthe souchong. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais apparemment c'est des feuilles extrêmement vieilles qui ont vieilli et ça donne ce goût fumé peut-être.
Oui, et puis il a été fumé aussi.
Fumé, voilà, oui, c'est ça. Bon, là, je crois qu'on a déjà pas mal parlé du thé. Ça me donne envie d'en boire une tasse, n'est-ce pas, Bernadette? Alors,
oui.
En attendant, on va peut-être prendre nos thés pendant que vous allez nous écouter. Et écouter la musique, surtout une belle musique.
Voilà, une musique...
qui va avec le thé.
De Chine.
Nous sommes toujours sur Radio Grand Ciel avec Bernadette. Je crois que cette musique qui accompagnait notre tasse de thé est un peu soporifique malgré tout. Heureusement que le thé nous réveille. Donc voilà, on serait capable de vous parler et de continuer à parler de notre sujet d'aujourd'hui. Et maintenant que nous connaissons le thé et sa création et sa fabrication, on pourrait aborder le sujet de notre émission. Cela veut dire de savoir un peu plus des théières.
Alors, les théières, il faut bien distinguer la théière du thé proprement dit. Ce sont deux histoires très différentes parce que si on a dit tout à l'heure qu'on faisait du thé, on cultivait le thé depuis à peu près 2000 ans en Chine, ils ne buvaient pas le thé du tout de cette façon. Le thé était compressé en briques. à thé. Mmh. Et donc, au moment de le servir, on écrémillait ce morceau de brique et puis on ajoutait des tas de choses pour l'assaisonner un petit peu. Et donc, et on le verra tout à l'heure dans le thé au Japon, ça n'a rien à voir avec le thé qu'on prend maintenant depuis le XVIIe siècle en France et en Europe.
Oui, ça a
en
changé.
En Angleterre, ça a changé. Donc, c'est à partir du moment où on a fait infuser le thé, qu'à ce moment-là, les cours d'Europe ont eu besoin de théières. Et les Chinois, qui faisaient de la porcelaine déjà à cette époque-là, ont pris des petites carafes à vin, mais il y avait tous les éléments de la théière, c'est-à-dire le bec verseur, le petit chapeau, et l'anse, bien entendu. Et c'est ces anciennes petites carafes à vin qui sont devenues des théières. Donc si un antiquaire vous vend une théière ou vous propose une théière qui est qui a été fabriquée avant le XVIIe siècle, méfiez-vous, c'est une carafe à vin.
D'accord, parce que voilà, ne connaissant pas trop le sujet, je me suis plongée dans mon dictionnaire et donc j'ai lu que voilà comment on définit une théière. Alors la théière est un récipient à couvert de différentes formes, muni d'une anse et d'un bec verseur pour faire infuser le thé et pour le servir. Donc effectivement, il y avait déjà le bec verseur à l'époque.
Il y avait le bec verseur à l'époque dans les petites carafes à vin. Mais c'est vrai que tous ces éléments-là sont importants. Et ce qui est amusant, c'est qu'il y a énormément de chercheurs, d'inventeurs, des géotrouve-tout, qui ont cherché à améliorer la théière. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de géotrouve-tout qui ont essayé de faire un bec verseur où la dernière goutte ne tombait pas sur la nappe brodée.
À l'heure, on parlera encore des théières, parce que, comme je disais tout à l'heure, mon sujet aujourd'hui, c'est la théière, puisque Bernadette a une collection merveilleuse et elle nous en dira certainement pas mal de choses. Déjà, dis-nous d'où elle est originaire. Donc, comme le thé, d'Extrême-Orient.
D'Extrême-Orient, oui. D'abord parce que quand les paquets de thé venaient sur les bateaux qui faisaient des courses,
oui,
comme
je crois que c'était la Compagnie des Indes qui transportait tout ça.
Et ils lestaient les bateaux dans lesquels qu'ils allaient remplir de thé avec de la vaisselle blanche et bleue, parce que les Chinois avaient déjà découvert le cobalt. Mm-hmm. Et c'est cette vaisselle blanche et bleue dont se sont fait envie toutes les cours d'Europe.
Oui, effectivement. C'est vrai que la porcelaine de Chine en faisait rêver plus d'un.
Oui, mais elle était très chère. Donc, c'est pour ça que tout le monde voulait trouver en Europe la façon de fabriquer soi-même de la porcelaine.
Alors, cette théière, donc, on a dit, ça arrive de l'Inde. Ils l'ont ramenée en même temps que le thé. Finalement, ils ont apporté le récipient adéquat. Mais je voulais demander, quand c'est arrivé en Europe, les gens sont contentés de ces théières-là ou ils ont voulu en faire autant ?
Comme d'habitude, on a bien copié. Bien entendu, en faire autant. Alors, d'abord, il faut dire, par exemple, à la cour de Louis XIV, c'était un médicament. Il n'y a pas eu un grand enthousiasme pour le thé dans le début, dans les premières importations. Mais petit à petit, effectivement, c'est devenu un rite, le thé de 5 heures. Et donc, qu'est-ce que c'était la question déjà ?
Oui. Non, la question était quels étaient les autres endroits où on pouvait fabriquer les théières. Donc en Europe, j'imagine, puisque bon, c'est fragile, ça se casse. Donc il ne pouvait pas attendre toujours les bateaux des compagnies des Indes qui ont ramené d'autres. Donc
mais c'est Auguste Lefort qui a beaucoup fait chercher les gens qui étaient chez lui, puisque lui achetait cette porcelaine chinoise, ces théières chinoises, mais elle coûtait très cher et il voulait qu'on lui en fasse sur place.
Alors je crois que ça a été fait aussi en Europe, donc en Angleterre, à Staffordshire, et puis bien sûr à Delft et à Meissen.
Oui, partout où on faisait de la vaisselle.
Très belle vaisselle à l'époque, et j'ai lu aussi qu'ils en faisaient aussi en des théières en argent.
Oui, en métal, bien entendu. Ça allait de l'argent le plus fin à l'aluminium le plus ordinaire.
Effectivement. Et les services à thé, alors, sont apparus à quel moment ?
Alors, pratiquement en même temps, parce qu'il fallait bien servir ce thé dans quelque chose. Donc, au début, les tasses étaient beaucoup plus petites, comme des tasses à café, ou alors elles étaient avec deux anses. Et on ça devait pas être très joli parce que on buvait le thé qui tombait dans la soucoupe. Donc ça devait pas être très facile à mon avis, mais bon, petit à petit, la théière et la tasse à thé ont acquis leur taille. Parce qu'au 19e siècle, par exemple, les théières étaient énormes, c'était vraiment des grosses pièces.
Oui, de plusieurs litres.
Oui, vraiment. Et pendant la guerre, par exemple, Churchill avait dit que les troupes avaient besoin de plus de thé que de munitions.
Ah oui, effectivement. Et donc, ces théières ont trouvé leur place dans les manufactures dans l'Europe. Et les françaises, alors, les manufactures françaises, il y en avait certainement ?
Oui, les manufactures françaises. Alors, en porcelaine, il y en a eu, bien sûr, après la découverte du kaolin à Saint-Ypriex.
Oui, parce que, rappelle-nous un peu, la porcelaine, donc...
La porcelaine, c'est un mélange de terre, mais avec du kaolin. C'est très, très important.
Voilà.
Donc, nous, on en a trouvé dans le Berry. Et puis, les Allemands en ont trouvé chez eux aussi. Et c'est pour ça que c'est chez Auguste Lefort qu'il y a eu les premières porcelaines. Et il a découvert ça de façon impromptue, parce qu'un jour, son valet lui apporte sa perruque. Et elle était beaucoup plus lourde que d'habitude. Alors, il s'est dit, comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Alors, l'autre était obligé d'avouer, le valet était obligé d'avouer que, comme il avait plus de talc, il avait pris de cette espèce de poudre blanche qu'il y avait à l'extérieur. Et c'était donc du kaolin. Mmh. Donc, Auguste Lefort a demandé à ce qu'on fasse une théière, car la première fois qu'on a fait cuire de la porcelaine à Meissen, la première petite pièce qui a été sortie, c'était une petite théière. Et Auguste Lefort l'a emportée.
Ah. Ben justement, il y a quelques jours, j'avais fait une émission avec Yves Bastide et on parlait de la guerre franco-prussienne pendant laquelle, en Normandie en particulier, et dans cette œuvre dont nous parlions, des Allemands se sont retrouvés dans un château. Et j'ai pensé à toi parce qu'il parle dans le livre, Guy de Maupassant nous parle d'une magnifique théière japonaise que les Allemands ont remplie de poudre à canon.
Oh, quelle horreur!
Et voilà, ils l'ont fait exploser ainsi que tout ce qui se trouvait autour. Donc je me suis dit, Bernadette, pour sa collection, elle aurait été certainement très heureuse.
Très contente de la récupérer, certainement.
Bon, ben, on parlera tout à l'heure encore des théières à travers de ce qui se trouve dans ta collection, puisque les théières forment des objets et des objets forment des théières.
C'est ça.
Formule que
c'est
j'ai,
ma formule.
Voilà, que j'ai reproduite là. Donc. Voilà, donc on va peut-être vous laisser un petit peu et puis on reprendra. On va continuer notre thé à déguster.
Voilà.
On va écouter la musique.
Alors, on peut écouter un extrait d'une opérette de Franz Lehár. Et le prince et la princesse chantent. Prendre le thé à deux, c'est merveilleux.
C'est merveilleux, c'est mon compatriote Franz Lehár, donc c'est très bien.
Voulez-vous accepter une autre?
Voilà, une très jolie voix, ça rappelle un peu un chat.
Oui, c'était voilà. Un enregistrement qui était effectivement un petit peu trop ancien, qui n'existe pas en CD, vraiment, c'est le vinyle de base.
Et
qui rappelle ces vieilles cartes postales recolorisées, où on voit effectivement des amoureux qui prennent le thé. Il y en a beaucoup sur les brocantes.
Alors, dans cette dernière partie de notre émission Histoire d'en savoir plus, Bernadette, je voudrais que tu nous racontes ce que sont les cérémonies du thé au Japon et en Orient, et de nous raconter par la suite ta collection. Mais commençons d'abord par la cérémonie de thé.
Alors, au Japon, les choses se sont passées un petit peu différemment. Ce n'est pas Robert Fortune qui a amené au Japon les pieds de théier, c'est un moine bouddhiste. qui a donc volé, là encore, les pieds de thé. Mais au Japon, le thé se fait avec de la poudre de thé, très verte. Mmh. Et donc, il y a tout un cérémonial. D'abord, il y a l'endroit. Si on est riche, dans le fond de son jardin, on a un pavillon de thé, avec un tokonoma où on fait un ikebana pour que ce soit beau.
Tokonoma, ikeneba.
Voilà. Alors, le tokonoma, dans le pavillon de thé, mais aussi dans la maison japonaise, c'est un endroit où on va pouvoir déposer un bouquet. Alors, souvent, on met une gravure derrière, une estampe, et on met ces trois fleurs comme ça.
Donc, on ne prend pas le thé n'importe où.
Ah non, non, on ne prend pas le thé n'importe où, non. Et après, on fait donc ce thé avec une toute petite théière qu'on échaude, bien sûr. Et l'eau, on la verse sur la poudre de thé vert. Mmh. Et il y a un petit balai qui est vraiment propre à cette cérémonie du thé. Et avec ce petit balai, on tourne très, très fort, très, très fort et très, très vite. Et je dois dire que moi, je n'arrive pas à remuer le thé vert assez vite. Et donc, j'ai beaucoup de difficultés pour le faire mousser.
Ça doit mousser.
Voilà. Et puis, bien sûr, on est assis sur ses genoux. C'est pas ce qu'on aime beaucoup chez nous, mais il faut le faire. On a mis son plus beau kimono, naturellement. D'accord. Et puis, on écoute de la musique un petit peu comme celle qu'on écoutait en tout début d'émission.
À mon avis, les Japonais n'ont pas d'arthrose aux genoux.
Ils ne doivent pas, non.
Non, ils mangent autrement que nous. À mon avis, ça vient de là. Et donc, ils peuvent se permettre ça.
Oui, oui. Ah oui, mais il y a une lenteur étudiée parce que c'est vraiment quelque chose de très précis.
Ça doit être un peu à l'image du premier extrait musical que nous avons entendu.
Oui, c'est ça.
Très lent, donc très il lent. Faut, oui, oui. faut savoir profiter des choses.
On ne prend pas le thé en vitesse.
Voilà, c'est ça.
Au Japon. Quoique peut-être dans certains coins maintenant, à l'heure actuelle, mm-hmm. il y a des jeunes qui jettent un sachet de thé dans un mug et hop, c'est fait.
Vite fait, oui.
Mais ce n'est pas le but du jeu.
Non, non, tout à fait. Je pense, j'ai lu que c'est quand même maintenant, je veux dire, ça date du 13e, 15e siècle à peu près, où ça s'est vraiment, pas démocratisé, mais c'est devenu vraiment quelque chose d'assez courant au Japon, mais quand même seulement dans les milieux culturels.
Oui,
un
c'est
peu élevé.
Bon, on peut dire maintenant que c'est quelque chose d'assez folklorique, mais qu'il y a un respect des règles qui courent encore.
Oui, parce qu'apparemment, c'est une cérémonie de thé où on doit. Et c'est codifié, là, cette
très
cérémonie.
Très codifié. Voilà, le bol est important. La faïence ou la poterie qui a servi à faire le bol est importante.
Et on doit donc garder les quatre principes fondamentaux: l'harmonie, le respect, la pureté et la tranquillité. C'est bien ça. Il faut,
oui, oui, oui.
Il faut prendre son temps. Est-ce qu'on apprend ou est-ce qu'on apprend la cérémonie du thé? Ça
Alors
s'apprend,
maintenant,
je suppose.
Maintenant, ça s'apprend. Même à Paris, on peut apprendre à mener une cérémonie du thé. Mais c'était les geishas, en fait, qui en étaient responsables.
En fait, les geishas, je crois qu'on en parle comme des prostituées, mais ce n'était pas leur problème.
Pas forcément.
Pas forcément, voilà.
Elles devaient avoir
c'est
de la conversation.
C'est une fausse
voilà,
idée.
Une
voilà,
fausse idée. Peut-être qu'il y a eu des évolutions un petit peu négatives dans ce sens, mais c'était des jeunes filles qui savaient la musique, qui avaient beaucoup de conversations, qui devaient distraire le shogun, mais pas forcément aller jusqu'au bout.
Mmh. Et alors, maintenant que nous savons comment boire le thé et ce que nous buvons, puisque nous connaissons le thé, j'aimerais bien que tu nous parles de ta collection de théières, Bernadette.
Alors, ma collection de théières, c'est une collection qui compte à peu près 500-600 pièces, que j'ai commencé il y a une trentaine d'années. Et ça a commencé en Angleterre pendant l'été, parce que je suis du mois d'août. Donc, comme on était en vacances en Angleterre, tous les ans, je ramenais une théière. Et dans les années 70, moi qui suis un petit peu excentrique, donc j'ai tout de suite été attirée par
tu
les
n'es pas
théières.
Fantasque, non. Et, ah oui, d'accord.
Voilà. Et un jour, j'ai vu dans une boutique de thé qui s'appelait le Palais d'été, il y avait une théière en forme de pelote de laine. Oh. Et c'était une vraie théière, puisque les aiguilles rentraient et sortaient de cette pelote de laine qui était bleue turquoise, je m'en souviens. Et donc, quand ça ressort, on a une poignée, on a des petites pattes et on a un bec verseur. Mais ça valait une fortune à l'époque et je ne l'ai pas ramené tout de suite. Mais j'ai toujours pensé qu'il me faudrait cette théière. Et je l'ai retrouvée sur eBay il n'y a pas tellement longtemps.
Ah.
Voilà.
Ah, c'est plus du tout le même prix, à mon avis. Hein.
Non, 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 sur eBay, les choses sont devenues bien plus raisonnables.
Bien, ah bon, bah, tant mieux. et alors, je veux vous dire que Bernadette, il y a quelques années, une dizaine d'années environ, elle a fait paraître un livre. Donc, ce livre est dans mes mains. Vraiment, j'essaie de vous le décrire. Très joli livre, avec trois théières là-dessus. Alors, je ne sais pas, c'est des théières de quelle origine, mais elles sont très, très jolies. Et le livre est intitulé « Théières, les théières françaises, en faïence et en porcelaine » par Bernadette Loison. Très jolie, c'était une très belle idée que tu as eue là. Et qu'est-ce qu'on trouve dans ce livre, alors ?
Alors, parce que, finalement, quand on est collectionneur, il y a souvent des collections dans la collection. C'est-à-dire qu'il y a, peut-être qu'il y a aussi toutes les théières en forme de chat. Et moi, je me suis intéressée aux théières des manufactures qui avaient disparu après la Seconde Guerre mondiale. Ça a été la grande période du début de la mondialisation et toutes ces usines ont fermé. Et ça, c'est tout à fait dommage parce que souvent, il n'en reste pas grand-chose.
Non. C'est vrai que je sais qu'il y a des fabriques qui ont totalement disparu, comme par exemple celle, il y en avait une au Montmartre, au pied de la basilique, où d'ailleurs fabriquaient des porcelaines et certainement des théières aussi, à l'intention de la reine Marie-Antoinette avec ses fameux barbeaux.
Oui, les petits bleuets.
Et voilà, et qui ont disparu totalement.
Ça reste toujours un des thèmes de décor favoris.
Oui, mais je veux dire, la fabrique a
disparu.
Ah,
la fabrique, oui, beaucoup de fabriques ont disparu.
Voilà. Et donc, cette collection, ça va continuer à s'agrandir ou bien il y a un moment où on dit, on s'arrête ?
Alors, il va falloir forcément se poser un jour la question du devenir de cette collection, exactement, dans la mesure où mes enfants ne sont pas trop attirés. Et ça me fait penser à deux livres très précis. D'abord, Le Cousin Ponce, d'Honoré de Balzac. Quand, si vous lisez Le Cousin Ponce, vous verrez comment ce pauvre cousin, quand il est malade, les gens, alors qu'il est dans le fond de son lit, les gens vont dans sa pièce où il collectionne ses tableaux. Il est extrêmement malheureux parce qu'il fait vraiment ça pour lui. C'est pas pour partager.
Il veut pas le partager.
Ce genre de collection. Et puis il y a un autre livre qui s'appelle Utz. Et dans ce livre, on raconte justement l'histoire d'un petit vieux qui, pendant la guerre, est très très surveillé par les Allemands qui voudraient bien récupérer sa collection de porcelaine. Et il ne le voit jamais sortir avec des paquets ou des choses comme ça, donc il ne se méfie pas. Par contre, tous les jours, il passe avec les mains dans les poches. Et quand il sera décédé, il n'y aura plus du tout de porcelaine dans l'appartement.
Ah, qu'est-ce qu'elles sont devenues, ces porcelaines ?
Il les a courageusement cassées, mis en petits morceaux et sorties les unes après les autres.
Il a préféré les détruire que de les laisser à l'ennemi.
Tout à fait.
Ben voilà des patriotes, très bien. Voilà, je crois qu'aujourd'hui, dans notre émission, vous avez découvert un monde parfumé à la rose, à la bergamote ou à la fleur d'oranger. Et que dorénavant, lorsque vous regarderez vos théières comme Bernadette les siennes, vous les regarderez d'un autre œil. C'était notre but avec cette émission, en espérant vous avoir appris quelque chose. C'était l'histoire d'en savoir plus sur les ondes de Radio Grand Ciel.
Merci Elisabeth.
Merci Bernard d'être venu. Thank you.